bonjour et bienvenue à cette édition de La vie en BD, une édition toute spéciale puisque je ne suis pas seul et je n'ai pas seulement un invité, mais j'en ai plusieurs avec moi puisque c'est une édition toute particulière. C'est le Club de lecture mensuel et oui, on est déjà rendu là. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure et avec vous en compagnie de libraires en résidence de chez Pantoute, de chez La Liberté, qui sont avec moi et qui ont partagé des lectures avec moi au fil de ce mois-ci. Jérôme Vermette, salut.
Salut bien.
Marco Duchesne, salut.
Bonsoir.
Édouard Tremblay, salut.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Alors, je rappelle le concept du club de lecture en peu de mots. Donc, on est quatre lecteurs passionnés de bandes dessinées et on choisit de se rencontrer mensuellement autour de quatre titres. Il y en a un d'entre nous qui choisit des titres et au fil des mois, au fil du temps, ça a été lié de plus en plus par un thème, par un cadre. Alors, il est choisi ce cadre par celui qui choisit les titres. Ça oriente peut-être un peu aussi la lecture de ceux qui découvrent ou redécouvrent les titres qui sont proposés. Et c'est une belle opportunité donc de comparer différentes perspectives autour d'un même album, de tisser des liens entre les ouvrages à l'étude, bref, de jaser de bande dessinée. C'est pour ça qu'on est là ce soir à La vie en BD. Et au menu de ce club de lecture du 27 novembre, c'est Jérôme Vermette qui a choisi les titres sous le thème « Relecture et figures iconoclastes du héros en bande dessinée ». Donc, pas du tout pompeux comme thème. On reste « down to earth » si vous me permettez l'anglicisme. Et les quatre titres que Jérôme a choisis, dont il va nous parler dans quelques instants, c'est le tome 46 des aventures de Spirou et Fantasio, Machine qui rêve, de Tom et Jean-Ry, c'est chez Dupuis. C'est L'homme qui tue Lucky Luke de Mathieu Bonhomme chez Dargo. C'est Superman Red Sun de Mark Millar, Jave Johnson et Killian Plunkett, disponible en français chez Urban Comics. Et c'est le tome 1 d'Alix Sénateur, Les Aigles de sang de Jacques Martin, Valérie Manger et Thierry Desmarais. Et c'est chez Casterman. Alors Jérôme, parle-nous de cette thématique et de ses choix. Et rappelons la thématique, relecture et figures iconoclastes du héros en bande dessinée.
Oui, je sais, j'aime bien des fois essayer de faire des titres un peu pompeux, comme si c'était une thèse de maîtrise. Là. L'idée est venue un peu de la discussion qu'on a eue au mois dernier en tant que tel, où Marco nous exprimait son intérêt pour la figure du héros. Si vous vous souvenez bien, il avait choisi le thème de la rédemption pour en parler. Et tout au fur de la discussion, tout ça, ça a fini par me donner l'idée d'explorer un peu la même figure, mais de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre son cours habituel, c'est les héros qui sont réinterprétés par des auteurs et qui font ressortir d'autres éléments ou, à la rigueur, peut-être même faire davantage briller ceux qu'on connaissait déjà. Donc, j'ai choisi des albums, tous des personnages pour lesquels j'ai beaucoup d'affection en partant, dont les créateurs, ou tous les gens qui ont travaillé dessus à un moment ou un autre, j'ai trouvé très inspirant comme artiste de la bande dessinée, que ce soit comme scénariste ou dessinateur. Puis, ce sont tous aussi, selon moi, des figures assez archétypiques de la figure héroïque de la bande dessinée de différentes manières. Mettons que je commence avec le Spirou et Fantasio, le dernier album que Tom et Jean-Ry ont fait dans la série. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, ils n'avaient pas très bien marché de leur propre aveu, mais c'est resté à eux leur préféré. Le Spirou et Fantasio, Machine qui rêve, il est d'abord particulier parce qu'on met Spirou dans le cadre du film noir. Je peux pas m'empêcher tout le temps de faire des références au cinéma, tant les deux arts, la bande dessinée et le cinéma, me semblent si près l'un de l'autre. Et donc, Spirou et Fantasio, Machine qui rêve, se déroule comme un film noir. Hein, le détective qui sait pas trop ce qui lui arrive, puis doit trouver un peu... réponse à tout ça. En fait, l'atmosphère est très paranoïaque, ce qui est assez particulier pour un Spirou. N'est pas spécifiquement drôle non plus, même pour Tom et Jean-Ry, ça aussi, c'est assez particulier. Ils ont fait le défi d'essayer de les dessiner presque réalistes, les personnages. Si je me trompe pas aussi, c'est là qu'on commence à sentir dans la série quand Spirou et ce Cotine, dont on finit par apprendre le soi-disant vrai nom, pour montrer à quel point les auteurs ont voulu cadrer les personnages dans un univers plus réaliste. Ils lui ont donné un prénom, ils n'ont pas voulu que Socotine soit son, son vrai nom. C'est là que je crois qu'on commence à voir pour la première fois qu'il y a une possible relation amoureuse, un intérêt amoureux, excusez-moi, entre Spirou et elle. Donc, dans cette histoire-là, Spirou s'en va enquêter sur un laboratoire où il se passerait quelque chose de pas catholique selon la secotine en question. Et à un moment donné, il se retrouve, après avoir commencé son enquête, il se retrouve évanoui. Là, vous voyez, ça fait déjà quelques semaines que j'ai pas relu la pomme. Je me souviens plus si c'est chez lui ou dans la rue, etc. Mais à partir de ce moment-là, commence une course-poursuite. Il ne sait plus à qui se fier, à quel saint se vouer. Et tout le monde semble vouloir le retrouver et lui vouloir du mal, y compris ses amis Fantasio et Socrates. Bref, c'est vraiment une atmosphère complètement différente des autres albums, tant au niveau du dessin, que moi, personnellement, je trouve assez réussi. Ça marche plutôt bien pour moi, à mon avis, là, de voir Spirou et Fantasio dessiner de cette manière-là. Et bon, l'atmosphère paranoïaque qui continue presque à la toute fin, juste la dernière planche qui a un petit côté plus paradisiaque, si j'ose dire. Le Lucky Luke est un peu dans le même genre. Le Lucky Luke, lui, par contre, n'est pas dans la série centrale. Il est dans les fameux one-shots, là, le Lucky Luke 2. Mais bon, en même temps, selon moi, je crois qu'il respecte totalement les thèmes westerns. Ce qui est assez frappant dans cet album-là, c'est que Mathieu Sapin...
Mathieu Bonhomme,
c'est Raymond qui a mes copies. dans L'homme qui tue Lucky Luke, donc, qui commence avec une planche coup de poing. On voit carrément un cadavre en plein milieu d'une rue et quelqu'un qui s'écrit « J'ai tué le légendaire Lucky Luke ». Et il pleut à boire debout et tout ça. Là aussi, on a un dessin un peu plus près du réalisme sans l'être totalement. Et la BD, la première fois que je l'avais lue, je trouvais qu'elle avait une ambiance western spaghetti. Et finalement, elle m'a évoqué plus, après la lecture, les vieux westerns de John Ford que le côté gritty, si j'ose dire, excusez-moi l'anglicisme, des western spaghetti, mais plus les beaux décors et les héros, les personnages, disons, au grand cœur qui ont pu retrouver dans les westerns de John Ford. Et c'est peut-être dû, entre autres, au personnage de Doc Wednesday que rencontre Lucky Luke, qui est manifestement copié sur Doc Holliday, que John Ford avait fait d'un personnage dans My Darling Clementine. Ce que j'aimais bien là, dans cette histoire-là, donc Lucky Luke arrive, comme il fait dans tous ses albums généralement, il arrive dans un village où personne ou peu, il ne connaît personne, sauf que lui, il est connu. Et il doit remettre ses armes et se rend compte qu'il y a manifestement quelque chose de corrompu par la loi, la manière dont la loi est rendue à cet endroit-là. Et donc, en enquêtant, c'est-à-dire les citoyens lui demandent d'enquêter, de remettre le village sur les tracts, si j'ose dire. Et évidemment, il va se mettre en porte-à-faux avec une famille bien particulière. Donc, l'homme qui tue Lucky Luke, c'est pas non plus exactement, non, c'est ça, il y a l'espèce de la série centrale de Lucky Luke de Morris, puis reprise plus tard par HD et plusieurs auteurs différents, une espèce de bonhomie, d'humour qui rend toujours le western extrêmement léger. Dans L'homme qui tue Lucky Luke, on est complètement dans une autre atmosphère, un peu comme Machine qui rêve dans la série Spirou et Fantasio. L'autre, et c'est là que mon thème iconoclaste vient, selon moi, le plus évident, c'est l'album Red Sun, écrit par Mark Millar, ce qui est un peu la rockstar là, de l'album en tant que tel. Là, Millar était déjà assez connu pour ses relectures de super-héros à l'époque. Lui, il a pris un point complètement différent. Donc, au lieu de redessiner Superman ou quoi que ce soit, il a complètement changé son origin story. Dans le fond, il a imaginé que Superman, au lieu de s'écraser au Kansas, s'écrase en Ukraine, et sera adulte à l'époque du stalinisme. Il va avoir été élevé dans un camp de travail et il va avoir absorbé les valeurs du communisme stalinien, donc ni plus ni moins. qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est que Millar mène son idée jusqu'au bout, c'est-à-dire que Superman veut la sécurité de la planète, mais au lieu d'avoir des valeurs soi-disant américaines à cause de ses parents, Jonathan et Martha qu'on voit, là, on voit Martha là, dans une planche seulement, là, justement, presque tous les personnages centraux de la série apparaissent à un moment ou à un autre. Donc, il va appliquer à la lettre les idées de surveillance du stalinisme jusqu'à en créer une véritable dystopie. Cet album-là, je le trouve franchement hyper intéressant à cause de cette complète relecture des super-héros DC les plus connus, Green Lantern, qui est comme l'espèce de tentative des Américains de faire une pseudo-guerre froide contre Superman, Batman, qui est un terroriste russe, que les auteurs appellent affectueusement entre eux le Batmanski, là, avec le costume assez fou qu'ils lui ont inventé. Bref, et l'histoire est complète et rend Mark Millar rend l'histoire jusqu'au bout. On n'est pas obligé d'avoir lu plusieurs séries en parallèle et tout ça. Du moment qu'on connaît les grandes figures de DC, on arrive très bien à suivre Red Son, qui se termine, selon moi d'ailleurs, à la fois sur qui a à la fois une fin, comment dire, donc mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que il y a un peu d'amertume quand même, puis en même temps, finalement, on s'aperçoit que pour Millar, Superman reste un héros fondamentalement bon, mais l'histoire est un cycle continu et qui est condamné à se répéter continuellement, donc c'est un peu comme ça que se termine Red Son. Donc il y a un peu à la fois d'amertume, tout comme il y a de l'espoir. Le personnage qui est peut-être le moins changé dans tout ce que je vous ai proposé, c'est le Alex Senator. Dans le fond, les deux auteurs qui ont repris le personnage iconique de Jacques Martin ont décidé tout simplement d'inventer des histoires qui arrivent à Alex une fois qu'il est déjà rendu plus vieux, il est autour de la cinquantaine. Il est maintenant sénateur, donc on le voit plus souvent en toge qu'avec une armure. Et l'histoire des Aigles de sang est plus comme un polar qui se déroule dans l'Antiquité qu'un péplum comme Jacques Martin avait tendance à les mettre en scène. Et ce qui est hyper différent également dans le Alex Senator, c'est le style du dessin plus que la complète relecture des personnages. Donc, là où Jacques Martin était plus dans la mouvance de la ligne claire, celui-là, le style de dessin plus proche d'un dessin plus années 2000, là, 90-2000, où ça mélange à la fois l'encre et la peinture à travers les couleurs. Mais toujours est-il que l'autre aspect qui est intéressant dans cette série-là, c'est que les auteurs peuvent se permettre ce que Jacques Martin ne pouvait pas se permettre, c'est-à-dire d'être moins... d'avoir moins à censurer certains aspects qu'on connaît ou qu'on croit connaître de la civilisation romaine. On imagine souvent, on a souvent tendance à fantasmer une Rome qui fait des orgies et tout ça. Ben, on en met quand même un peu plus en scène là-dedans que Jacques Martin pouvait se le permettre, lui, à une autre époque. Donc, ceux qui veulent une antiquité qui ressemble plus à notre imaginaire actuel pourraient fort bien être servis par le Alex Senator, qui pour moi est une version modernisée du Peplum, donc tout simplement. Voilà, ce sont les quatre lectures que je proposais pour discuter de ces quatre héros, excusez-moi, que je trouve toujours intéressant d'ailleurs à revisiter leurs aventures.
Alors, donc, quatre héros, évidemment, on aura bien compris, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Superman et Alix. Alors, par lequel commencer? C'est le moment du club de lecture où tous les yeux se tournent vers Édouard Tremblay qui va nous lancer vers un premier titre, vers une première transition.
Hein, en fait, évidemment, comme Jérôme hein, semblait déjà nous lancer sur quelque chose de très, répétons-le, hein, pompeux, je me suis dit pourquoi pas on continuerait pas de se péter les bretelles un peu et d'essayer, tu sais, un tant soit peu, de rentabiliser nos diplômes. Et donc, je me suis dit, comment aborder la thématique? Eh bien, en fait, quand on a, à mon avis, une relecture, une réinvention, une recontextualisation d'un héros comme on a là, les deux pans d'analyse, en fait, qu'on peut tracer, sont est-ce que notre héros, justement, est en rupture ou est en continuité avec l'œuvre originale? Et à ce compte-là, ben, je dirais, commençons justement peut-être avec celle qui est, comme d'ailleurs le soulignait bien Jérôme, en continuité le plus direct avec l'œuvre originale, c'est-à-dire Alex Sénateur, où comme il l'expliquait, bien sûr, justement, on n'a pas réinventé le personnage, disons, par exemple, je ne sais pas, dans le monde moderne, dans le monde médiéval, ou, bon, Alex dans l'espace, ou allons savoir. On a tout simplement, justement, posé la question où est rendu Alex quelques décennies plus tard, sous un nouveau règne aussi, ce qui est quand même intéressant, parce que là, on sort vraiment de la République et de tous les troubles de la guerre civile de la République pour passer vers le principat augustéen, hein, allons-y avec les grands termes. mais donc, aussi avec ça, justement, donc, un tout nouveau un tout nouveau contexte aussi dans lequel Alex, justement, va être amené à interagir, parce que là, justement, on est un peu à ce qu'on pourrait considérer comme pas loin de l'apogée de l'Empire romain, dans le fond, là, ou en tout cas à ses débuts, mais aussi à une de ses époques les plus brillantes. Là.
Exact. Puis il y avait quand même beaucoup d'éléments politiques, beaucoup de jeux, de coulisses, surtout au début, en fait, parce qu'effectivement, ici, on se place vraiment au début du principat augustéen, et Auguste vient d'être nommé empereur, et donc on retrouve un peu cette dynamique-là. C'est un peu, bon, des meurtres qui finalement n'en sont peut-être pas, mais qui, dans la grande histoire, techniquement en étaient. Donc on se joue un peu, on garde un peu cette dynamique, d'ailleurs, de la série Alix, de jouer avec un peu les trous, les zones d'ombre qui nous restent de l'histoire antique, pourtant si brillamment ramenée par des historiens comme Titlive. Mais effectivement, j'aime bien l'idée que tu amènes, Édouard, dans la mesure où on est vraiment en continuité. Donc, dans ce cas-ci, on n'est pas dans une relecture ou même dans une réinterprétation, mais c'est un peu comme si on essayait de se projeter comment Alix dans n'importe quelle série, ça serait intéressant de le faire avec Tintin aussi, de dire, ben, Tintin un peu plus vieux, avec plus d'expérience, avec des enfants, avec un rôle politique autre, dans un autre contexte, ben, comment aurait-il évolué? Et en regard de l'évolution aussi de la Rome lui-même, parce qu'entre César et Auguste, il y a une évolution, il y a une autre recherche, une autre quête, et on le voit un peu dans sa relation avec les enfants, donc subitement, il y a d'autres enjeux, il y a un rôle politique, donc ça change un peu la donne par rapport aux autres. Alix, peut-être une série peut-être un peu moins naïve aussi, parce que le personnage qui a peut-être plus une cinquantaine d'années, ben, conscient des jeux, sait sa position à l'intérieur de tout ça, donc ça amène... disons, une anticipation qui est intéressante à partir d'un personnage sans être obligé de le réinventer ou de le redémarrer, finalement.
En tête, Raymond, en fait, ils l'ont déjà fait pour Tintin, ça s'appelle Théodore Poussin.
Oui, effectivement.
Est bonne. C'est vrai que les personnages de bande dessinée, un peu comme James Bond, n'ont pas tendance à vieillir. Hein?
Ils ne sont pas faits pour ça.
C'est ça, exactement. Il y a qui le fait, tu sais, tu regardes, mais ça, c'était quand ils ont décidé de le faire, c'était déjà hors norme. Mais effectivement, comme tu dis, Marco, ils ne sont pas faits pour ça. Là,
les non, parce que, dans ton choix, c'était un des personnages les plus tricky, dans le sens que ce que tu nous proposais était des relectures, mais celui-là s'installait dans une continuité. Machine qui rêve est dans la continuité, mais on reviendra plus tard, le projet devait être là-dessus. Mais lui, c'était le plus tweaky, puis à bien y repenser, parce que je n'ai fait que ça là, depuis les derniers jours, penser à ce que je vais dire. Et en fait, c'est pas si tweaky que ça. Et le concept de relecture du personnage, je pense qu'il s'insère bien aussi dans ça, parce que ces séries-là sont faites pour que les Américains l'ont bien compris, là, c'est fait pour que le personnage, même si ça fait 80 ans que ça dure, il est à l'âge exact. Et, je veux dire, 80 ans, puis Batman aura toujours dans la quarantaine, et Superman ne peut pas vieillir, mais peu importe. Mais ils sont pas faits pour ça. Et du côté des Européens, c'est fait pour ça. Spirou aura toujours cet âge-là. Et Alix en faisait partie. Et je pense que du moment où un auteur décide de dire, ben, je vais le montrer plus vieux ou je vais montrer la fin. Ce que fait Frank Miller avec Batman, The Dark Knight Returns, même s'il nous montre la fin, jamais les éléments qui sont là sont repris dans la série ou ailleurs. Par contre, et lui, il propose une relecture de Batman. C'est-à-dire qu'il le met plus vieux. Évidemment que beaucoup de choses ont changé, mais est-ce qu'il aurait vieilli comme ça? On ne le sait pas, mais c'est son interprétation. et pour ce qui est de Alix aussi. Mais par contre, si ça, on fait une relecture et qu'on vieillit le personnage, qu'on le met à la fin de sa vie, il reste qu'il garde l'essence même de ce qui fait qu'on peut reconnaître le héros, c'est-à-dire l'élément iconographique. Mm-hmm. Apprendre Alix, ceux qui connaissent la série de Martin, on le reconnaît tout de suite, la coupe de cheveux, puis, et là, il ne reste rien qu'à prendre des éléments et à les réinterpréter à la fin de la. Il devient sénateur. Là. J'ai pas assez lu d'Alix comme vous autres. Moi, je disais des trucs plus intéressants. Là. J'imagine que, évidemment, ils le font vieillir et ils gardent ses valeurs, ses caractéristiques que le personnage a véhiculées pendant toute la série sous Martin et autres.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les caractéristiques sont réinterprétées à un âge plus avancé. Je pense que c'est ça l'intérêt, tu sais, parce que il fonctionne avec le même moteur. Puis c'est ce qu'on va voir aussi un peu avec Superman, d'une certaine façon. Mais Superman, on est dans un contexte géopolitique, on va reparler tantôt. Avec Alix, dans le fond, c'est simplement l'expérience. Mais tu sais, dans le fond, c'est au-delà des aspects physiques, c'est les aspects moraux qui sont intéressants de voir comment ils vont évoluer, puis comment... Avec un nouveau contexte, ils vont être intégrés de manière différente pour servir de moteur à l'histoire ou de moteur à certaines séquences et d'autant dans les tomes qui suivent.
Là. D'autant plus intéressant ce que tu dis là, Raymond, parce que quand on prend le temps de lire même la série de Jacques Martin, malgré les aspects plus... le dessin de Jacques Martin, il y a quand même une apparence d'une autre époque. Là, ceux qui continuent la série centrale ont conservé ce genre-là. La série centrale de Jacques Martin, de Alix, est beaucoup moins, n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire à première vue au niveau des enjeux moraux des personnages, y compris ceux d'Alix parfois. Hein. D'ailleurs, Jacques Martin, son personnage, qui est un Gaulois, il ne le fait pas se battre contre la Rome antique. Comme on voit habituellement les Gaulois, c'est un ami, il est adopté par César. Et dans Alix Sénateur, on le voit comme étant un très bon ami d'Octave. C'est des gens qui, habituellement, dans ce genre de récit-là, sont plus des ennemis. Mais il y a également des choix, parfois... Jacques Martin, ça ne gêne pas même dans sa série centrale pour mettre des personnages qui sont dans un univers mental et culturel complètement différent du nôtre, y compris Alix, qui ne transfère pas nécessairement les valeurs du 20e siècle dans sa série, mais essaie constamment de garder en tête... Alix, il fait partie d'une oligarchie, hein? il est proche du pouvoir et il le sait à quelque part. Et autant comme dans Alix Sénateur, ça se paraît, tu sais. Donc ça, cet aspect-là est comme une continuité. Je pense qu'ils peuvent juste se permettre plus que Martin pouvait peut-être le faire à une certaine époque, que ces choses-là soient plus en filigrane du récit. Là où, par contre, puis là, ça, c'est mon avis personnel, Alix Sénateur pêche peut-être, c'est, on dirait que les auteurs, puis ça, des fois, ça arrive souvent quand les auteurs reprennent des personnages classiques, on dirait qu'ils veulent mettre beaucoup de références à l'intérieur d'un seul même album, à la série originale, puis... Il y a cette tendance-là encore, là, selon moi, dans Alix Sénateur. On pourrait tout simplement continuer à inventer des histoires plutôt que constamment remettre ce que l'auteur original avait créé. Là.
Mais dans ce cas-là, en fait, j'aimerais te renvoyer la balle, Jérôme. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi un peu dans L'homme qui tue Lucky Luke? Dans la mesure où, on a quand même, malgré, encore une fois, un contexte qui est un petit peu plus mature, une histoire un peu plus adulte, définitivement, quand même énormément de clins d'œil, appelons des Easter eggs, comme on dit en latin, à l'œuvre de Morris. Mais je veux dire, le costume, tu sais, qui est typique au point où, tu sais, quelqu'un d'autre le porte, puis, tu sais, c'est Lucky Luke, et si Lucky Luke le porte pas, on le reconnaît pratiquement pas, même aussi comme il l'avait fait un peu bizarre dans Jolly Jumper, ne répond plus, tu sais, tout le running gag involontaire ou volontaire, bon, autour du tabac, qu'on n'est jamais capable de mettre la main dessus, et quand on sait tout le débat qu'avait fait la série originelle autour bon, de Lucky Luke.
Ça, d'ailleurs, ce bout-là sur le tabac est pour moi, dans L'homme qui tue Lucky Luke, un très bel hommage à Maurice. Parce que ouais. Maurice, c'est lui hein, qui a voulu que son personnage arrête de fumer. Si je ne me trompe pas, il avait eu le cancer du poumon, un truc comme ça, et il a décidé qu'il arrêtait que son personnage fume, mais je crois que ça fait partie. La fin de Maurice, après ça, a voulu que ça continue comme ça, que ce soit la volonté de l'auteur, que le personnage ne fume jamais. Et dans L'homme qui tue Lucky Luke, l'hommage, bon, ceux qui ont lu l'album savent que dans le village où Lucky Luke se trouve, il n'y a plus de tabac disponible et le tabac ne finit jamais par arriver parce que le train est bloqué. Et donc, le personnage de Doc Wednesday finit par dire à Lucky Luke, moi, je me suis détruit avec l'alcool et la cigarette, je devrais arrêter de fumer. Et Lucky Luke, en souvenir de Doc Wednesday, parce qu'il meurt, là, excusez-moi pour les spoilers, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben, il décide finalement d'arrêter de fumer. Donc, c'était une sorte de bel hommage là, à Maurice, justement.
En fait, ça me fait rire qu'Edouard parlait de Easter eggs, dans le fond, dans la mesure où l'album, au bout du compte, est pratiquement un Easter egg aussi, parce que si je me rappelle un peu les entrevues que Mathieu Bonhomme avait fait à la sortie du bouquin, il disait ben, justement qu'il s'était posé la question ben, qu'est-ce qui a fait que Lucky Luke a arrêté de fumer entre tel album et tel album? Puis techniquement, ben, l'homme qui tue Lucky Luke, si on avait à le placer dans la chronologie du livre, ben, ça serait entre l'album où il fume puis l'album où il fume plus, où on explique un peu ça. Donc, en soi, ça devient un Easter egg aussi pour les amateurs, mais ce qui a toujours frappé, puis je pense que tu l'avais bien dit d'entrée de jeu, c'est qu'on a dépassé rapidement aussi le stade de l'Easter egg pour en amener avec un récit qui est plein, qui est entier, qui peut se prendre pratiquement tout seul, puis que oui, il y a des éléments pour l'amateur de Lucky Luke, mais il y a aussi et surtout des éléments pour l'amateur de Bonne Histoire, puis pour l'amateur de Western, où on amène la série dans l'univers cinématographique. Dans le fond, je trouvais que ton parallèle était de mise, parce que le côté bon enfant de Lucky Luke subitement est amené dans le côté un peu des grands westerns, un peu plus patibulaires, si on peut dire. Puis on le voit un peu à travers cette lecture-là aussi.
La réinterprétation, ça y prend deux facteurs essentiels pour que ça marche. Que ça marche dans... Chez le lecteur qui, lui, connaît le personnage, ou l'amateur, le lecteur qui, lui, ce sera sa première expérience. Mais pour que ça marche, il y a deux éléments essentiels. Il faut d'abord que le héros qu'on va réinterpréter ait passé la barrière du temps. C'est-à-dire qu'il faut que la série ait duré assez longtemps pour imprégner la culture, le lecteur. Et à ce niveau-là, les Easter eggs, en fait, deviennent l'univers dans lequel va s'insérer le héros, et c'est de conserver cette interprétation-là qu'on en fait. Le tabac, en fait, dans la série Lucky Luke, il arrête de fumer, mais je ne me rappelle plus si c'est mentionné. Mais ici, on l'explique, dans le sens que on y met une situation dans laquelle, bon, là, il va arrêter de fumer et on l'explique. Mais si on le fait, c'est que le héros a duré assez longtemps et que c'est un fait dans lequel on l'a inséré dans l'histoire. Et la deuxième, c'est l'iconographie. C'est toujours les deux choses qui apparaissent et qui soient importantes à l'interprétation. Le héros, on pourra interpréter ses valeurs et tout, les réinterpréter, mais pour qu'on soit sûr que ce soit le héros, il faut qu'il y ait l'élément iconographique qui fait qu'on le reconnaît. Dans le cas de Lucky Luke, dans le cas d'Alix, c'était sa coupe de cheveux. Là, on pourra le faire vieillir et tout, mais s'il venait chaud, on serait mêlé. Alors, il y avait sa jolie coupe de cheveux, tandis que Lucky Luke, pour lui, c'est sa chemise jaune, la veste noire, le bandana rouge et son chapeau, ce qui fait en sorte que là, tout de suite, là, le lecteur qui, lui, a le background de la série, le temps, le reconnaît et va pouvoir évoluer dans ce niveau. Pour ce qui est du lecteur occasionnel, il va avoir droit à un bon western avec une bonne histoire, et surtout dans le cas de Mathieu Bonhomme, non seulement Boris avait aussi les codes du western. Il s'en jouait, il s'amusait avec ça, mais ici, Mathieu Bonhomme a pris ça très au sérieux et a rendu un western à l'américaine, là, et comme tu disais, un peu à la Forgiven, Unforgiven de Clint Eastwood,
pour
faire la référence au cinéma.
Ouais.
Et je te vois, Jérôme, opiner du bonnet par rapport à ce que Marco disait. Alors, réaction là, par rapport à cette réinterprétation de Lucky Luke.
Ben, une affaire que Marco dit, qui selon moi correspond bien à l'effet qu'elle m'a fait la lecture et relecture de L'homme qui tue Lucky Luke. Déjà d'emblée, en partant, le titre est assez provocateur. Hein? Le titre et la couverture. La couverture qui... est très dramatique là, de voir Lucky Luke en contre-plongée sous la pluie. Mais ce qui m'avait frappé en le relisant, c'est à quel point, contrairement aux albums de Maurice, il n'y a pas d'humour, ou en tout cas pas d'humour aussi, aussi slapstick qu'on pouvait trouver dans ces vieilles ces séries qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Comme disait Marco, Maurice aimait se moquer des codes du western tout en les respectant. Et là, ici, effectivement, Mathieu Bonhomme a transformé Lucky Luke en héros fordien. Et ça, moi, je trouve que ça marche. Et c'est là que je voulais dire, lorsque j'ai présenté un peu les albums, c'est qu'on dirait que finalement, dans les relectures, En transformant le héros, en le transformant visuellement et en le mettant dans un cadre différent, on découvre mieux ses caractéristiques. Où, c'est comme si ça les mettait davantage en lumière. Lucky Luke, bon, Maurice lui faisait des blagues sur le fait qu'il était bon tireur. Hein, on le voyait tirer son ombre qui s'écroulait ou une affaire comme ça. Le nombre de jeux, même il y a eu des pastiches de faits là-dessus, là, en tant que tel. Mais là-dedans, il est juste... présenté comme un excellent pistolero. Il y arrive comme un héros solitaire qu'on voit dans la plupart des westerns classiques, dans une ville où il est devenu légendaire. On sait qui il est, puis les gens, il y en a un qui le provoque. Hein, il dit, ouais, c'est-tu vrai que tu tires plus vite que tout le monde? Et puis, il fait juste lui dire, essaye-toi pas. Il veut pas le mal à personne et tout ça. Donc, c'est complètement différent comme manière de présenter de ce que Maurice faisait, mais en même temps, ça nous permet de le connaître pleinement, mais d'une manière complètement différente. En mettant davantage l'accent sur d'autres aspects, c'est comme si on connaissait Lucky Luke. Le seul aspect qui ne transparaît pas, en fait, dans l'album de Mathieu Bonhomme, et c'est parce qu'il a fait un album qui est plus réaliste que humoristique, c'est la relation entre Lucky Luke et son cheval. Lucky Luke et son cheval semblent être constamment en dialogue dans Maurice. Ça, c'est Jolly Jumper ne répond plus, là, qui avait beaucoup, qui avait amené ce thème-là jusqu'au loufoque total. Mais là-dedans, il y a la loyauté de la bête, effectivement, là, que Lucky Luke, qui retrouve toujours Lucky Luke, mais ils n'ont pas ce dialogue-là. Lucky Luke ne parle pas à son cheval en s'attendant à ce qu'il lui réponde. Jolly Jumper ne fait pas de commentaires ironiques ou quoi que ce soit.
Le changement de ton devient un peu la relecture, en fait.
Un peu.
En fait, fait partie de la relecture, en fait, le changement de ton. Et c'est pour ça que ces albums-là ne doivent pas s'insérer dans la série normale de ce héros, qui perdure sur le temps et tout. Et c'est pour ça qu'il faut les faire à part, pour ne pas détruire, un, ce qui a été installé par les auteurs originaux qui ont installé le héros et qui le développent au fur et à mesure. Et les Européens ont compris ça que récemment, là. Les Américains, eux, l'ont compris depuis le début. À un moment donné, Batman, Superman, ça faisait 80 ans que ça existait. Alors, ils se sont mis... Et si on donnait carte blanche à un auteur pour nous raconter sa perception de Batman? Et là, on a eu droit à un paquet de Dark Knight Returns, Arkham Asylum de McCain. Je ne me rappelle plus des auteurs, mais... Et Grant Morrison et le dessinateur, je ne m'en rappelle plus.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. En fait, c'est vrai que la position dans la série est intéressante parce que le fait de l'amener à l'extérieur, comme dans les relectures qu'on voit beaucoup, ben, donne énormément de liberté. Alors qu'au contraire, quand la relecture est placée à l'intérieur de la chronologie, et pas au bout non plus comme avec Alix, mais vraiment à l'intérieur d'une chronologie, là, ça change complètement la donne.
Les paramètres sont beaucoup plus stricts. Je veux dire, dans une série... Là, il faut que tu t'installes avec les numéros d'avant. Et ce que tu vas installer, ça va rester dans les numéros d'après. Et c'est pour ça, Luc et Luc, le ton qu'aurait installé Bonhomme dans la série aurait complètement changé le truc. Et un éditeur ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à créer ces choses-là par rapport à leur série. Et,
c'est peut-être pour ça qu'il y a Machine qui rêve dans la série.
Voilà, là, c'est moi qui ai fait la transition.
Excuse-nous.
On s'est auto-traditionné.
Quoi que c'est quand même drôle, là, dans le fond, quand on y pense, parce qu'on a tendance à oublier que Franquin a lui-même fait un très gros changement par rapport à la série originale, là, éventuellement, lorsqu'ils sont devenus les aventuriers qu'ils sont devenus, mais alors que JG et Rob Vell, c'était pas aussi loin que ça, là. Mais toujours est-il que Machine qui rêve est carrément un peu ce que tu exprimes là, Marco, c'est-à-dire qu'il met en place un ton complètement différent de la série centrale. Encore là, pour moi, cet album-là est plus sérieux que humoristique, malgré là, qu'on reconnaît quand même les traits de... Je ne sais jamais lequel entre les deux est le dessinateur, là, entre Tom et Jean. C'est Jean-Ri.
Ouais.
Donc, on reconnaît son style, là, mais malgré tout, mais l'ambiance lourde et paranoïaque de l'album est complètement en porte-à-faux avec le reste de la série. Il aurait très bien fonctionné, il aurait probablement bien fonctionné dans les fameux Un Spirou et Fantasio.
Ben, en fait, le pari, en fait, c'est un pari que Dupuis avait fait, un énorme pari dangereux, qu'ils avaient fait de l'installer dans la série normale. Et je me rappelle à l'époque le tollé de tous ces fans et amateurs de Spirou qui ont été scandalisés et tout. On était quelques-uns, je me rappelle les discussions qu'on avait, on était quelques-uns, « Wow, ça promet, j'ai hâte au prochain » et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Et à partir de là, l'année d'après, naissait la collection « Une aventure de Spirou vue par ».
Ouais.
Et c'est à partir de là que eux, les Européens, ont commencé à être tentés et à voir comment ça marchait du moment. Et là, une aventure de Spirou et Fantasio vue par un auteur ou carte blanche à un auteur s'est mis à bien marcher, mais elle était à part.
Ouais,
c'est ça. Et le but de ça, c'est de l'interprétation, l'exercice ne peut fonctionner que comme ça.
Mm. Ouais, ben en fait, je pense que là-dessus, Marco t'a mis directement le doigt dessus, hein, parce que surtout dans des séries quand même de très très longue haleine comme ça, il y a ces éléments classiques, ces éléments justement de continuité. On parlait de rupture continuité que t'as pas le choix de retrouver parce que il y a un côté rassurant. Parce que c'est pour justement le lecteur, pour le fan qui suit ça depuis toujours, comme l'importance de retrouver ça, de retourner à la maison et de retrouver ce même contexte, ces mêmes éléments. Comme on le disait, c'est justement dans la machine du rêve, ben, tout, moi qui connais quand même pas beaucoup Spirou, mais un justement, bizarrement, de mes albums fétiches, c'est un Tom et Jean-Ri, c'est Spirou à New York, que je lis depuis que je suis tout petit et que j'adore. Et on voit vraiment, justement, quand on le met en comparaison avec La Machine qui rêve, à quel point on tranche avec... Parce que dans les deux, on pourrait avoir quelque chose de très simple. Je veux dire, à New York, ils deal avec la mafia, ils deal avec les triades. Et pourtant, même là, très rapidement, le chef de la mafia, on va tout tourner ça en ridicule, on va tout en faire des running gags de personnages. Alors que là, justement, dans la machine du rêve, dans la machine qui rêve, remarquez aussi même Spip, qui est quand même un des personnages amusants, je veux dire, iconiques de la série, même lui, on le voit très, très peu. Parce que justement, c'est un élément de running gag. Même, je pense même que tu sais pourquoi on a enlevé Fantasio. Ben, c'est parce qu'à quelque part, entre Spirou et Fantasio, Fantasio a quand même la porte un peu plus ouverte justement aux situations un peu comiques ou à cause de son caractère des fois un petit peu plus hurluberlu dans tout ça. Là.
Un faire-valoir, là, Fantasio, ouais. Effectivement, là, tout à fait.
Mais, oui, puis en fait, même dans le rythme et dans la manière d'amener la série, c'est déjà avec les premières séquences, on est dans une émission de télévision. On est complètement ailleurs. Finalement, on se rend compte d'où on est, qu'on était dans un récit, mais finalement, cet aparté-là qui donne beaucoup le ton vers ce qui s'en vient, puis vers la balance du récit.
Ouais.
Après ça, les jeux avec les réalités, le trait, le. J'ai l'impression, puis c'est ce qui est fascinant, c'est de voir que ben, dans les réinventions, dans les quatre titres que tu nous proposes, c'en est quand même un qui va assez loin dans la réinvention, c'est sur plusieurs niveaux, et c'est le seul qui s'inscrit dans la série officielle aussi. Donc, je peux comprendre quand tu dis, oh, regarde, ça a amené les gens à se dire, bon, OK, on va les dissocier, on va se donner cette possibilité-là pour explorer sans craindre un peu de dénaturer l'univers de la série.
C'est un album,
parce que pas loin, cet album-là,
pour lequel j'ai beaucoup d'affection, parce que je trouve que, ça marche, hein, le Spirou Fantasia.
Ah, il est très bon, vraiment très bon.
Ils sont super bien faits, ils sont super bien rendus, j'ai envie de faire un très beau travail visuel là-dessus. Mais en plus de ça, l'album est sur les chapeaux de roue, constamment. Et ça, Tom et Jean-Ry ont toujours été très forts là-dedans. Si on reprend l'exemple qu'Edouard a parlé de Spirou à New York, c'est de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont tout le temps très rapides à mener l'aventure et tout ça. Et
ça déboule, en fait.
Oui, c'est ça. Et ça, on a comme un film d'action sur les chapeaux de roue du début à la fin, pratiquement, là, et ça marche très bien. Et l'atmosphère, est, comme tu le faisais remarquer, Raymond, elle est dense, elle change complètement dès le début, là, avec le prologue, là, le pseudo-prologue qu'on pense au début quand on commence à lire, que c'est une introduction, que c'est peut-être un personnage que Spirou et Fantasio vont aider. Ben non, c'est un film qu'ils sont en train d'écouter. Là, tout de suite, mais ça a quand même tout de suite mis le ton, ce que Tien appelle Spirou d'une cabine, j'ai découvert quelque chose, puis là, on reste constamment tout le temps dans ce ton
parallèle. Il n'y a pas sa même peignure, il n'est pas habillé en groom, ouais.
Ça a été l'erreur de miser sur le fait qu'il soit dans la même série, mais de ne pas garder l'aspect iconographique de ce qui caractérise Spirou. Spirou et Fantasio, si on regarde la série des 50 numéros, c'est une des meilleures séries qui a joué la carte de se moderniser petit à petit, au fil des changements des dessinateurs et des scénaristes pour moderniser les personnages, pour les faire évoluer dans un monde qui change tranquillement, mais aussi le costume de Spirou, entre autres, qui est l'aspect le plus important du personnage. Et on voit, là, il porte encore son chapeau à un moment donné. Mais là, Tom et Jean-Ry misent sur, OK, je suis dans la série, je veux complètement, et là, ça a été une des erreurs, je crois, parce que là, c'est la façon dont il est dessiné, les cheveux, le costume. Là, je pense que c'est ça qui ne cadrait plus avec,
On avait plus assez d'éléments de référent. Ouais, on avait plus assez d'éléments de référent pour comprendre.
Oui, c'est ça.
C'est intéressant parce que ça ramène encore, je pense, au point justement qu'on parlait avec Lucky Luke aussi, ou avec, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on justement recontextualise notre héros, qu'est-ce qui devient l'élément justement qui définit ton héros? C'est-à-dire, est-ce que c'est justement l'iconographie, est-ce que c'est son costume comme Lucky Luke, ou est-ce que c'est les valeurs que représente ou que va défendre ce héros-là? Et c'est encore plus criant, je pense, dans Red Son, où justement, je veux dire, là, on recontextualise carrément Superman, on l'amène aux antipodes de ce Boy Scout américain, mais en même temps, il reste quand même fondamentalement l'essence de ce qu'est Superman, vraiment au-delà de l'iconographie qui est quand même assez pareil, je veux dire, à part qu'il va porter la faucille et l'étoile.
J'adore ce costume.
C'est magnifique, oui, ça, déjà en partant, je veux dire, pour mettre ça sur une couverture, ta BD, elle se vend tout seul, là, je veux dire, ça pack un punch, c'est extraordinaire. Mais de deux choses l'une, d'abord, justement, à partir de là, ben, on a, comme je le disais, toute la batch des valeurs de Superman qui sont recontextualisées, mais en fait reconduites dans une nouvelle atmosphère. Mais, et là où je pense que ça reste quand même très sain, surtout dans le cas d'un personnage comme Superman, c'est que Superman, à mon avis, je veux dire, c'est un personnage qui n'est pas travaillable. Je veux dire, on prend à partie, déjà au tout début, Il n'y a rien qui l'affecte à part la kryptonite. Il n'est pas arrêtable. Mmh. Donc, imaginez à partir de là, essayer de réinventer des histoires, de réinventer des nouveaux défis. C'est tellement facile de tomber dans la redondance, de toujours... Et d'avoir une idée comme ça, de dire non, là, on va s'attaquer à la provenance même des valeurs qu'il va justement véhiculer. Mais je pense que c'est là que le travail est très sain et très intéressant et que ça donne une BD aussi. Je veux dire, moi, je ne suis pas un très grand fan de Superman, mais Red Son, c'est extraordinaire. Là.
En fait, c'est autre chose. On est ailleurs là-dedans. Et tu disais, côté relecture, l'aspect politique, l'aspect géopolitique et la réinterprétation que juste ce changement de contexte-là nous amène, nous permet aussi de pousser ailleurs les valeurs de Superman, de voir en fait, parce que lui, son évolution, c'est dans le fond, s'il ne change pas, il s'adapte à son contexte aussi, il reste le même, mais dans le contexte où là, subitement, bien, il se ramasse à prendre la tête essentiellement du Parti communiste, et subitement, bien, dans le fond, c'est comme si c'est pratiquement une dictature à l'échelle planétaire qu'il va mettre en place parce qu'on pousse à l'extrême, dans le fond, la logique de ses valeurs et le changement de contexte permet de pousser, d'aller jusque-là.
Micro parenthèse, si vous avez vu le dessin animé qu'ils ont fait, parce que ça m'a frappé en relisant justement la BD, dans le dessin animé, ils découvrent en fait que Staline a des goulags et il tue Staline à cause de ça et s'empare du pouvoir.
Oh, OK. Ouais, là, tu changes complètement la donne, par contre.
Là, tu sais, ça donne quand même quelque chose de plus proche, je pense, de Injustice qui est venu apparaître.
Oui, c'est ça. Effectivement. Parce que l'aspect fondamental de Red Son, qui le rend, selon moi, encore plus intéressant, c'est que Superman, optimalement, reste le même. Il veut que tout le monde soit en sécurité. C'est cet aspect-là mêlé à le fait d'avoir grandi dans le stalinisme qui lui fait penser, ben, il faut que je sois capable de surveiller tout le monde sur la planète.
Pour les aider.
C'est ce qu'il fait. Mais fondamentalement, il le fait pour le bien de la planète et tout ça. Et là, la twist, évidemment, dans Red Son, c'est qu'éventuellement, son ennemi, sa némésis absolue, va lui faire comprendre que c'est pas ça que les humains veulent, puis il va finir par le comprendre, évidemment. Dans Injustice, que parle Edouard, c'est complètement autre chose. Il ne le comprend pas. Il devient ni plus ni moins mauvais, si on veut. Mais c'est ça aussi, c'est dark, mais d'une autre manière. Alors que Red Son s'achève sur le triomphe de l'humanité, hein, ni plus ni moins, là, en tant que tel. Ce qui n'est pas le cas Injustice, c'est complètement autre chose. Et c'est un peu par la présence de Superman. Donc, c'est pas un album complètement dystopique, c'est assez particulier vraiment, là, justement. Je pense que Mark Millar se cadre fondamentalement sur l'idée, semble avoir très bien réfléchi le cadre de la naissance de Superman. Et il le démontre parce que son histoire va jusqu'au bout de cette idéologie-là. Puis évidemment, Superman, comme Edouard le fait remarquer, c'est un dieu, hein, ni plus ni moins, on peut pas le tuer, on peut rien faire à ce type, il y a juste la kryptonite qui est sa faiblesse. Il change complètement l'histoire du monde. Alors là-dedans, Wonder Woman n'est plus l'Amazone qui est tombée amoureuse d'un pilote américain. C'est une ambassadrice de Themyscira. Les autres super-héros ont changé. Il y a Flash, je ne crois pas qu'on le voit. Là. J'arrive pas, je ne me rappelle pas, mais tu sais, Green Lantern, c'est un pilote, comme je disais, un pilote américain qu'on pense qu'on va pouvoir utiliser pour combattre Superman, mais évidemment... étant ce qu'il est, il réussit. Et Batman, bien ça, Batman reste toujours pour moi la relecture la plus intéressante, mais Batman reste toujours le super-héros le plus populaire de tous les temps, je crois. Là, c'est celui que tout le monde aime le plus. Donc, il est le représentant encore là de l'humain dans une équipe où tout le monde est toujours des dieux à côté de lui. Là.
Marco, de ton côté, tes impressions?
C'est une des réinterprétations les plus intéressantes de Superman. Mais par rapport à ce que j'avais dit plus tôt, c'est-à-dire à cause des deux facteurs, le temps et l'iconographie, c'est-à-dire que c'est pas possible de raconter cette histoire-là sans avoir 80 ans de Superman qu'on connaît, le remettre dans ce contexte-là, et effectivement, c'est un petit chef-d'œuvre de ça. Et l'iconographie, il est aussi importante, et ça, elle le sera toujours, même si le personnage a des valeurs et on veut les réinterpréter, c'est l'iconographie. Le symbole sur la poitrine de Superman, il est super joli, mais parce qu'on le met en parallèle avec l'autre, ça sera toujours un élément important. Prenez, tu sais, quand on dit, on est tous tous ceux qui adoreront la BD ou les comics, quand arrive un temps de voir un film tiré d'un album ou d'un comics, ben, on s'assoit là, puis on s'en fout de quoi le film va avoir de l'air. Tout ce qu'on veut, c'est, exemple, Batman. Le prochain film de Batman, moi, peu importe, mais je veux au moins qu'il y ait une scène où il est sur une gargouille à Gotham la nuit avec la cape au vent. Ça me prend ça, là. T'sais, dans Marvel, ils en ont beaucoup ri, mais l'atterrissage héroïque, ça l'apprend, là. Même si dans Deadpool, on en rit, là, mais ça l'apprend, là. Alors, l'iconographie est hyper importante dans ses réinterprétations. DC avait une collection à une époque, ça s'appelait Elsewhere. Alors là, ils ont adapté les héros dans toutes les situations. Batman, là, pendant la guerre civile, à Londres, à l'époque, au 19e siècle, Batman a eu des réinterprétations, mais à n'en plus finir. Mais il y avait toujours le costume, il y avait toujours cette image de lui sur une gargouille. Bref, mais ici, Superman, comme tu disais, Édouard, effectivement, il est parfait. Et l'idée de génie, c'est de le prendre, mais on va le transposer dans un autre pays avec une autre culture et une autre. Et je pense que c'est ce qui en fait un petit chef-d'œuvre.
Oui, mais dans le fond, la force des réinterprétations, puis si on regarde un peu les quatre ouvrages, au bout du compte aussi, c'est. Il n'y aurait pas de valeur s'il n'y avait pas un contexte historique large de la série. T'sais, tu l'as dit, Superman Red Son, c'est 80 ans de Superman qui permettent de jouer avec ça. Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, c'est la relation qu'il y a avec sa série. Donc, plus la série est riche, plus la relecture va être intéressante aussi si elle est bien amenée, si elle est bien menée, bien proposée.
Ouais, vraiment, tout à fait. Puis dans le fond, à part peut-être Alix, qui est peut-être le moins connu des quatre, là, selon moi, c'est tous des personnages qui, même si on les a pas lus, on sait de quoi ils ont l'air. Là. C'est un peu comme Dracula ou le monstre de Frankenstein. On a une idée, même si on n'a jamais lu l'œuvre ou vu un film de ça. Hein.
C'est l'iconographie de Marco, dans le fond.
Ouais, c'est ça, exactement.
En plein ça. Voilà.
Que dire de plus?
Ben, je pense qu'encore une fois, tu sais, on le dit souvent, mais tu sais, bravo à Jérôme pour le choix des BD, parce que justement, comme je disais, en parlant de rupture et continuité, je pense qu'on a eu quatre choix qui représentaient ça d'une manière complètement différente, mais en gardant justement la pureté du thème de base. Et c'est quelque chose qui en fait de club en club, sans dire que je veux nous lancer des fleurs, mais je pense qu'à chaque fois, tu sais, les thèmes comme ça vont justement amener quelque chose de le fun, quelque chose de différent dans le choix des BD. Et moi, écoute, Jérôme, je te lève mon chapeau encore une fois. Écoute, c'est très agréable.
Merci. Et je rappelle les titres, justement, qu'on a lus ce mois-ci. Alors, Les aventures de Spirou et Fantasio, le tome 46, Machine qui rêve, de Tom et Jean-Ry, c'est chez Dupuis. L'homme qui tue, Lucky Luke, de Mathieu Bonhomme, c'est chez Dargo. Superman, Red Son, de Mark Millar, Dave Johnson et Killian Plunkett, c'est chez Urban Comics en français. Et Alix Sénateur, le tome 1, Les aigles de sang, de Jacques Martin, Valérie Mangin et Thierry Desmarais, c'est chez Casterman. Donc, des sélections de Jérôme Vermette, sélection autour, on le disait, d'entrée de jeu, donc de relecture et de figures iconoclastes du héros en bande dessinée. Alors, quatre beaux titres, et je rejoins Édouard un peu dans l'idée que, effectivement, si on a envie de voir et d'explorer, de poursuivre ces quatre bons choix là, que t'as effectué, Jérôme, ça met de la pression sur moi puisque j'aurai le prochain club à choisir. On s'en reparlera en décembre, le 18 décembre, pour être précis. Et d'ici là, ben, je remercie donc mes collègues pour ce club de lecture, Jérôme Vermette, Édouard Tremblay, Marco Duchesne. Merci à vous trois.
Ça fait plaisir.
Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Passez une excellente semaine et on se dit à très bientôt. C'était Raymond Poirier au micro.